Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'Apologie de Socrate dans laquelle Platon rapporte les plaidoyers de Socrate lors de son procès en moins 399 à Athènes qui débouche sur sa condamnation à mort. Socrate a donc 70 ans lorsqu'il est accusé par Mélétos, Anytos et Lycon de ne pas reconnaître les dieux de l'État et de corrompre la jeunesse. Au procès, Mélétos représentait donc les poètes, Anytos les artisans, et les hommes politiques, et Lycon, les orateurs. Ce sont tous des personnes que Socrate aurait peut-être blessées en questionnant leur savoir. L'apologie se divise en trois parties. Dans la première, Socrate discute les critiques de ses accusateurs. Dans la deuxième, il fixe sa peine. Et dans la troisième, il montre aux juges qui l'ont condamné qu'ils ont eu tort et s'adresse à ceux qui ne veulent pas qu'il meure. Donc, dans la première partie, Socrate explique qu'il est entièrement étranger au langage des tribunaux et qu'il ne dira que la vérité. Il donne ensuite le plan, en quelque sorte, de son plaidoyer, qui va donc se composer de deux grandes parties. Il va d'abord répondre aux fausses accusations propagées depuis longtemps contre lui, puis il discutera les plaintes de ses accusateurs actuels. Donc on accuse Socrate depuis de nombreuses années de chercher à rendre une bonne cause mauvaise et d'apprendre aux autres à le faire aussi. Ces fausses accusations viennent du fait que l'oracle de Delphes l'a proclamé le plus sage des hommes. Socrate a donc voulu vérifier si c'était vrai. Il est allé interroger les hommes les plus sages, les hommes d'État, les poètes ou encore les artisans, et leur a démontré qu'ils se croyaient sages, mais ne l'étaient pas. Les jeunes personnes qui fréquentaient Socrate l'ont donc imité et on a accusé Socrate de corrompre la jeunesse. Dans son discours, Socrate essaye d'abord de ridiculiser Mélétos et de montrer aux juges qu'il ne s'est jamais préoccupé de l'éducation de la jeunesse. Pour ça, Socrate lui pose plusieurs questions qui réduisent Mélétos à déclarer que tout le monde est capable d'améliorer la jeunesse et que Socrate est le seul à la corrompre. Socrate demande alors comment il pourrait le faire, parce que comme tout homme sensé, il sait que qu'en semant le mal, il ne récoltera que le mal. Si il corrompt la jeunesse, il ne peut donc le faire qu'involontairement. Mélétos accuse aussi Socrate de nier l'existence des dieux. Il prétend d'abord que Socrate ne croit pas aux dieux, et ensuite il affirme qu'il croit aux démons, qui sont les fils des dieux. Donc Mélétos dit en quelque sorte que Socrate croit aux dieux et que Socrate ne croit pas aux dieux. Et donc Socrate a dit ce qu'il avait à dire pour se défendre et s'arrêtera là. Il ne recourra pas à des supplications qui sont indignes de lui et indignes des juges. Ces mêmes juges qui ne doivent pas céder à la pitié mais n'écouter que la justice. Mais après ce plaidoyer, les juges déclarent Socrate coupable par une majorité de 60 voix. Donc dans la deuxième partie, on voit que en fait, dans ces procès, l'accusateur proposait une peine et l'accusé, s'il était déclaré coupable, en proposait une autre et les juges choisissaient l'une des deux. Les adversaires de Socrate demandaient la mort et donc déclaré coupable, Socrate devait proposer sa peine. Et lui estime qu'au lieu d'une peine, ses services méritent une récompense et il demande d'être nourri aux prytanées qui étaient le foyer de l'État. Il fait cette proposition inattendue parce qu'il dit n'avoir jamais fait de mal à personne et donc ne veut pas s'en faire à lui-même. Dans la troisième partie, donc, Socrate est condamné à mort par une plus grande majorité que la première. Mais alors qu'on faisait les formalités nécessaires pour le mener en prison, il reprend les juges qu'il avait condamnés. Il s'adresse d'abord à ceux qu'il avait condamnés en disant que cette condamnation était inutile puisqu'ils ne vont pas échapper à la jeunesse que Socrate lui-même a éduquée. Il s'adresse ensuite à ceux qu'il avait soutenus pour les rassurer sur son sort. Il explique que la mort ne peut pas être un mal pour lui. La voix prophétique ne l'a pas arrêté pendant le procès. C'est donc qu'elle approuve ce qui allait se passer. Socrate explique alors qu'il ne devrait pas craindre la mort parce que si c'est un sommeil, c'est un bonheur et si c'est un passage dans un autre lieu où l'on doit rencontrer les héros du passé, ce sera un plaisir pour lui de converser avec eux. Et enfin, avant de partir, Socrate recommande aux Athéniens de traiter leurs enfants comme il a traité lui-même ses concitoyens et de les sermonner s'ils préfèrent la richesse à la vertu. Et il finit par dire « Mais voilà, déjà l'heure de partir, moi pour mourir et vous pour vivre. De vous et de moi, qui s'en va vers le meilleur destin, cela reste un mystère pour tout le monde, sauf pour la divinité. » Pour conclure, j'aimerais vous expliquer ce qui m'a poussée à choisir cette œuvre et ce que j'en ai pensé. Donc d'abord, je cherchais un livre que j'avais déjà chez moi, comme ça je n'avais pas à commander et vis-à-vis de la situation actuelle, j'ai pensé que c'était le mieux. Ensuite, je m'intéresse au droit, donc lire le plaidoyer d'un grand philosophe me donnait envie. Et ça m'a aussi intriguée parce qu'avant de commencer ma lecture, j'ai lu que Socrate remettait en question quelques principes philosophiques dans ce plaidoyer. Et après avoir lu ce livre, je peux vous dire que je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très intéressant et je suis fière d'avoir réussi à comprendre ce que Platon a retranscrit. Donc voilà, merci de m'avoir écoutée et j'espère que ça vous a plu.